Coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver. Bienvenue dans ce numéro du Coq à l'âne, numéro 720 de Coq à l'âne. Autour de la table aujourd'hui, Jean-Claude Hérault et Bruno André.
Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Et notre invité, Michel Garcin, président de l'UPE 05. Michel, bonjour.
Bonjour les Coq à l'âne, bonjour Thierry.
Alors, on arrive au terme du mandat. Voilà. De l'UPE. Bah, celui de l'UPE.
Ah bon, je croyais que tu parlais des élections.
Non, on en parlera après. Là, parlons déjà de ton mandat.
Qu'est-ce qu'à quoi l'UPE ?
L'Union patronale.
Je saurais le retenir, Jean-Claude.
Ça commence à vanner. Hein. Pas commencer que ça commence à vanner.
J'ai l'impression que Jean-Claude a retrouvé un petit air de jeunesse.
Voilà. On avait donc une question à te poser. Puisque tu arrives au terme de ton mandat, qui va s'arrêter, je crois, aux alentours du mois d'avril, est-ce que tu postules pour un nouveau mandat et est-ce que tu vas faire campagne ?
Je n'ai pas pris ma décision. Je suis comme Manu, j'attends la dernière minute. Je vais voir un petit peu comment ça se trame, mais pour l'instant, ben, y a aucune fumée qui est sortie du conclave, donc je ne sais pas ce qui va se passer. C'est le 26 avril, la décision.
Ouais. Non, mais sérieusement, tu as une petite idée sur la suite ? Tu y vas, tu y vas pas, tu laisses la main ?
Ouais, j'ai envie de continuer. Mais ouais, ben voilà. J'aimerais aussi qu'il y ait quelqu'un qui suive derrière moi, parce que vous savez, on peut faire que deux mandats à l'UPE, donc j'ai quand même la motivation pour essayer de faire quelque chose de mieux que par le premier mandat, parce que le premier mandat, souvent on apprend. Mmh. Et alors là, on a été terrorisés par ce fameux Covid qui pose énormément de soucis.
Oui, en fait, tu as été un petit peu comme dans la même position que Emmanuel Macron, c'est-à-dire que tu t'es pris les gilets jaunes, ensuite...
Les gilets jaunes, c'était avant que j'arrive.
Il a été empêché de gouverner.
Tu t'es pris le Covid et maintenant une guerre internationale qui nous touche aussi, nous, localement, de toute façon au niveau de l'emploi, de l'entreprise, du commerce.
Ah, c'est clair qu'on n'avait pas besoin de ça derrière le Covid. Hein,
exactement.
Ça, et aujourd'hui, on ne voit pas comment on va pouvoir en sortir. Alors, quand on disait le mur des faillites après le Covid, j'ai peur qu'il arrive après, ou il arrive pendant la guerre du
Covid. Pendant cette guerre.
Ça devient très compliqué. Et puis, je ne sais pas si les consommateurs vont continuer à consommer avec des prix exorbitants, notamment. Enfin, je parle personnellement, j'ai un projet... immobilier, les coûts sont plus les mêmes qu'il y a 6 mois en arrière. Donc,
tout a augmenté, combien arriver, hein. Ça a pris quoi, 10, 20, 30% en certains secteurs.
Certains matériaux, ça a triplé. Il ne faut pas exagérer. Mais, Et puis aujourd'hui, il y a des problèmes, on va dire structurels, du style l'acier qui vient d'Ukraine et qui est façonné en Espagne et en Italie. Les stocks sont à zéro. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un maçon qui n'a pas de ferraille, il ne peut pas monter un mur, quoi, tout simplement.
On avait le président du BTP, justement, sur l'antenne cette semaine, et taquet, hein.
C'est dommage parce qu'après la Covid, il y a eu une reprise économique.
Oui,
tout à fait, tout à fait.
C'était plutôt positif, quoi, je veux dire.
Bien sûr, on était même étonnés de pouvoir rebondir comme ça. Et bon, aujourd'hui, on est quand même tous attelés à nos PGE et à nos remboursements. Et si derrière, il n'y a pas d'activité, ça va être compliqué, quoi.
Ouais.
Vous devriez peut-être vous intéresser plutôt au rayon alimentaire, hein. Parce que autant l'activité alimentaire en France a tenu le coup pendant le Covid, autant je pense que là on va en prendre un sacré coup.
Avant
de penser à faire des maisons ou des autoroutes ou des ponts ou des choses comme ça, il faut se rendre compte que peut-être que demain on aura du mal à remplir le panier de la ménagère. Et en tout cas, il y aura une forte inflation sur les matières premières. Et sur les produits de première nécessité autour de la farine, du pain, de toute la biscuiterie, de la viande de poulet, de porc, etc., des œufs. Je pense qu'on est à la veille d'une crise alimentaire qui va durer au moins, si dans le meilleur des cas, 18 mois. Et le pire est toujours à venir et ça commencera cet automne. Moi, je vous le dis, je veux
pas...
Ça
risque d'être plus rapide que ce que tu dis, parce qu'il y a un autre problème. Il y a un autre
problème. Parce qu'on est sur la fin des contrats.
Oui, d'accord, mais il y a un autre problème qui est un problème climatique.
Ah, mais oui,
parce qu'il y a la sécheresse. Bon, si on a un printemps humide, ce que tout le monde espère, si c'est pas le cas, on a quand même...
Excuse-moi de te couper, Jean-Claude, mais ça peut avoir des conséquences aggravantes. Si tu veux, pour l'activité française. Mais le problème de l'Ukraine, c'est foutu. Les cultures de printemps sont foutues en Ukraine. Donc, ils ne vont pas mettre en culture tout ce qui est protéines, oléagineuses, c'est-à-dire colza, tournesol. L'année prochaine, l'Ukraine majoritairement produisait énormément d'huile de tournesol. était un gros faiseur en huile de tournesol. C'est en gros 70% de la production qui vient d'Ukraine. C'est nous, pour nous, l'élevage, 70% des tourteaux de tournesol qui viennent de l'Ukraine. Et le tournesol, ça se plante au printemps. Aujourd'hui, ils sont en guerre. Alors, ils sont en guerre, il n'y aura pas de récolte l'année prochaine. Pour ma petite part, moi, j'avais deux camions de 30 tonnes achetés, sur avril, un sur juin, tourteaux de tournesol. À un très bon prix, 325€ la tonne. Il ne sera pas livré. Il y a déjà deux bateaux qui sont en retard sur la France. Ça représente 60 000 tonnes de tourteaux de tournesol. Le tourteau tournesol, c'est le résidu après extrudation de l'huile. Il vend de l'huile et on prend le tourteau pour apporter de la protéine aux animaux. Aujourd'hui, j'ai appelé le courtier. Le courtier, il dit, l'année prochaine, on n'aura pas de tourteau tournesol. On se reporte tout sur l'Amérique du Sud, l'Argentine et le Brésil, sur le soja américain, pour la protéine animale, mais pour l'huile végétale de cuisine. Voilà, je pense qu'il va y avoir une grosse inflation.
Donc là, on parle de nous, hein, personnellement, ce qui va nous toucher dans les mois à venir, comme tu l'expliques, mais pense aussi au niveau mondial. Les pays africains, ça risque d'être une famine beaucoup plus importante que ce que nous, on va se prendre sur la tronche. Mais on va en parler.
Parce que eux, ils ont... on en parlera tout à l'heure.
On va en reparler. Là, je vais dire seulement qu'on a vécu quand même deux choses extraordinaires, dans le sens littéral du terme, deux choses qu'on n'aurait jamais osé imaginer il y a 3 ans. Une pandémie mondiale et une guerre donc à la porte de l'Europe avec Poutine comme principal belligérant. Alors, la pandémie, je pense qu'on va apprendre à vivre avec, mais cette guerre, est-ce qu'on va devoir également apprendre à vivre avec, en espérant qu'elle ne mute pas, hein, comme le Covid a pu muter, et qu'elle atteigne des pays de l'Union. Quelle est donc la finalité de Poutine? C'est la question que je voulais vous poser dans cette agression, malgré tous les fake news qui sont diffusés pour défendre l'invasion de Poutine. Est-ce que cette guerre, qui est ultra médiatisée, ne va pas faire vaciller le chef du Kremlin? On commence à parler de criminels de guerre, les attaques de l'armée russe contre une maternité, un théâtre dans lequel se protégeait la population assaillie, devant une supérette devant laquelle des Ukrainiens faisaient la queue pour récupérer du pain. Pour la crédibilité de l'homme, c'est pas génial. Alors Poutine en maître du Kremlin et pourquoi pas en maître du monde. Comment vous imaginez la suite, vous, aujourd'hui?
Alors, moi, je pense que Poutine, c'est son dernier barreau d'honneur. Il va y laisser la peau ou son mandat, pas son mandat, parce qu'il avait presque un mandat vitam aeternam. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est complètement... C'est un vieux dirigeant, un vieux gouverneur qui est fermé complètement dans son bunker et complètement isolé sur le plan international et mondial et qui ne croit plus qu'à sa propre idée et qui sentait bien qu'autour de lui il allait perdre un petit peu de pouvoir parce que je pense qu'en Russie tout n'est pas rose, hein, qu'il y a quand même un mouvement qui est un petit peu anti-Poutine, qui est un peu latent. Il a sûrement compris que ça allait arriver. Et à mon avis, il a voulu déclencher cette guerre pour redorer le blason de la Russie, parce que c'est quelqu'un qui, à mon avis, est resté, qui fait partie de la vieille école et qui est resté...
Il est resté ancré dans les années 70-80.
Oui, 80, et il n'a pas digéré la chute du mur de Berlin, l'explosion du groupe de l'URSS, parce que Poutine, c'est quelqu'un qui comprend que la violence, et il ne peut pas admettre que l'URSS est explosé sans qu'il y ait un coup de canon qui soit tiré. En fait, tout s'est délité à partir de novembre 89, quand le mur de Berlin s'est effondré. Tous les États ont demandé leur indépendance et la Russie n'a rien pu faire. Et ça, il est nostalgique de cette période-là. Et il a certainement voulu aussi tester un petit peu l'ensemble du monde en se disant les Américains sont affaiblis parce qu'ils sont sortis de l'Afghanistan, les Européens
ils ne s'entendent pas, ils ne sont pas ensemble, ça ne va pas le faire
en ordre de marche, donc on va y aller.
Ils vont rien dire.
Il s'est planté sur tous les tableaux et c'est quelqu'un qui n'a qu'une idée, c'est la force et la puissance militaire. Et il n'a jamais pensé que l'Europe et le monde pouvaient prendre des mesures économiques
aussi forte,
aussi violente. Et aujourd'hui, je pense que Il y a deux perdants, hein, de toute façon. Aujourd'hui, l'Ukraine est a perdu et ravagée, mais elle va être très vite reconstruite dans l'avenir. Par contre, la Russie mettra du temps à se relever, comme elle a mis du temps à se relever de la Deuxième Guerre mondiale et de la politique qui a suivi après le rideau de fer. Quoi.
Michel, la finalité, on va aller où avec cette histoire?
Si on le savait, on serait bien sauvé. Mais le problème, c'est qu'on n'en sait rien et on a l'impression que la situation s'enlise, puisqu'il avait la capacité, soi-disant, de réduire à
néant. C'est ce qu'on nous avait dit, deuxième armée du monde.
On est au 22e ou 23e jour de guerre et ça n'avance pas. Et les Ukrainiens.
Ils lâchent rien.
Ils lâchent rien. Donc je pense que ça peut s'éterniser. Et c'est peut-être bien ça le drame. Après, c'est aussi, je pense, un moyen de connaître les capacités de l'Europe à s'unir pour faire face à cette tragédie. Je veux dire, bon, aujourd'hui, il n'y a pas de moyens militaires et Dieu sait si on ne mesure pas les conséquences que ça pourrait avoir d'appuyer sur le bouton. Mais je veux dire, bon, l'Europe doit montrer sa coordination pour
sa puissance, sa cohérence.
C'est le moment ou jamais. Et si l'Europe ne sort pas grandie de cet événement-là, on pourra sérieusement douter de sa capacité à faire les choses.
En tout cas, oui, l'Europe, ça en a étonné plus d'un. Hein.
Moi, je crois qu'il a déjà perdu, Poutine. Hein. Je suis convaincu qu'il a perdu déjà. Quoi qu'il arrive, il aura perdu parce qu'il aura réussi à faire l'unanimité contre lui.
Pratiquement. Pas complètement,
oui,
mais pratiquement.
La Chine, ben, je sais qu'aujourd'hui, il y a une rencontre entre les États-Unis et la Chine, où Biden a quand même monté le ton très fort en disant qu'il faudra quand même que vous vous positionnez, vous ne pouvez pas rester neutre.
Voilà, faut déconner.
Comme ça, donc faut arrêter de déconner. Donc moi, je pense qu'il a perdu. Il a perdu la guerre. Il a tout perdu. Voilà, et moi, j'ai envie de dire que ce qui est terrible, c'est terrible pour le peuple ukrainien et pour ce magnifique pays qui a des richesses insoupçonnées.
Et
franchement, je ne suis pas autour de la table, mais moi, je n'avais jamais regardé de près ce qu'était l'Ukraine. C'est un grand pays, l'Ukraine, y compris en géographie, c'est plus grand que la France. Mmh. Et c'est un pays très riche, extrêmement riche, tu l'as dit tout à l'heure.
Tu te rappelles, à l'école, quand on nous disait toujours, l'Ukraine, c'est le grenier de l'Europe.
Le grenier de l'Europe.
Absolument. C'est vrai. C'est ça. Hein. Mmh. Et ça se vérifie. Et ça aura des conséquences, ça a été dit tout à l'heure, extrêmement graves pour notre pays et pour les peuples européens. Par contre, ce qui est très positif pour l'Europe, c'est que ça s'est ressoudé. Mmh. Tout d'un coup, on sent que l'Europe sert à quelque chose.
Ouais,
quoi. Et on passe sur les petits détails, parce que quand on voit toutes ces images tous les soirs, qui sont terribles. Quoi. Et j'ai partagé sur Facebook un reportage de Quotidien qui a été publié hier soir, qui fait froid dans le dos. C'est un reportage qui a été fait sur les alliés de Poutine, qui sont vraiment des tueurs, c'est impressionnant quoi.
C'est des mercenaires qui l'entretiennent.
Ça fait froid dans le dos. Bon, moi j'espère que. Mais j'ai envie de dire que derrière Poutine, c'est le peuple russe qui a perdu, qui y est pour rien aujourd'hui, parce que le peuple russe, ils sont à 50% en dessous du seuil de pauvreté. Hein. Comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être qu'il a réagi comme ça, Poutine, parce qu'il sentait que le vent était en train de tourner dans son pays. Et que, mais bon, franchement, démolir, faire ce qu'il est en train de faire, c'est l'horreur totale. Quoi.
Alors,
c'est une tragédie, comme a dit Michel. Quoi.
Est-ce que Poutine, dans sa position, il a besoin d'alliés, est-ce qu'il pourrait interférer sur la campagne de la présidentielle et sur la présidentielle en France? Alors, c'est une question que je me suis posée en écoutant une analyse de Caroline Fourest. Je vous propose de l'écouter. Et on l'écoute et puis vous me direz après votre réaction. Tenez.
On le sait maintenant, on a le recul que Vladimir Poutine a tout fait pour faire élire Donald Trump. Absolument tout. Ça va des hackers russes travaillant pour le GRU et la branche du renseignement militaire russe qui ont hacké et fait fuiter des emails du Parti démocrate pour faire perdre Hillary Clinton, pour faire gagner Donald Trump, à la campagne des Macron Leaks, dernière élection présidentielle en France. Il y a eu, la veille du vote, souvenez-vous, une espèce de faux Macron Leaks. En tout cas, on a révélé des tas d'emails qui ont finalement accouché d'une souris, mais qui donnaient le sentiment qu'il y avait un gros scandale sur le candidat Emmanuel Macron. Et le président actuel français, Emmanuel Macron, qui parle toujours avec Vladimir Poutine parce qu'il n'a pas d'autre choix que d'essayer de maintenir ce lien, a gardé cette communication depuis le début en sachant pertinemment que des hackers russes liés à la branche militaire de la Russie, donc de Vladimir Poutine, donc sur incitation de Vladimir Poutine, ont tout fait pour qu'il ne soit pas élu président. Vous imaginez bien qu'avec cette guerre en pleine campagne électorale, Vladimir Poutine fera absolument tout pour qu'Emmanuel Macron ne soit pas réélu. En ce moment, il échoue parce que sa guerre est tellement absolument barbare que tout le monde le voit, mais il va tout faire pour essayer d'avoir face à lui un allié. Alors, les alliés, on les connaît. On sait qu'ils sont les gens proches de Moscou. On ne peut pas dire, parce que dans notre pays, ça coûte des procès, parce qu'on n'est pas très bon en investigation là-dessus aussi, il faut bien le dire. On ne peut pas dire précisément le nombre d'achetés qu'il y a dans notre classe politique. Mais je le dis très solennellement, David, réellement, la Russie est une des puissances les plus prédatrices et corruptrices de l'histoire récente politique. Et de même qu'on a vu un chancelier allemand rejoindre le conseil d'administration de Gazprom et même le présider quelques années plus tard, il y a dans notre classe politique des gens qui sont des obligés du Kremlin et de Moscou. Et Vladimir Poutine, son but de guerre, pour essayer de ne pas avoir trop de gens face à lui et pouvoir écraser l'Ukraine, va être de créer des opérations de déstabilisation, de lancer ses usines à trolls, c'est-à-dire sous ses faux profils qui, sur les réseaux sociaux, peuvent faire monter des thèmes, monter aussi des fausses informations, pour essayer d'encourager un candidat beaucoup moins coriace que celui qui est actuellement président. Et il a le choix, malheureusement, dans notre classe politique.
Ouais. Je sais pas de quand date
Semaine.
Cette semaine, c'est assez récent.
Ça paraît surréaliste.
Ça paraît surréaliste, mais on risque d'avoir, d'ici le premier tour des élections présidentielles, effectivement, des grosses surprises. Hein.
Les boules puantes qui vont sortir.
Oui, ouais, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. J'espère que les Français seront suffisamment, avisés pour pas répondre à toutes ces, voilà, ces boules puantes, comme tu les appelles.
Moi, je pense que effectivement, Poutine, c'est quelqu'un de l'ancien régime et qui est resté très. Ben, il vient des services du KGB, hein, de toute façon, et qu'il a fortement utilisé tous les moyens, notamment le contre-espionnage et l'espionnage et tout.
Et puis les hackers.
Il est hackers pour arriver à ses fins. Qu'il ait faussé un petit peu l'élection américaine. C'est pas impossible parce que il y avait le vote électronique là-bas déjà. C'était assez facile, mais on peut imaginer qu'il y ait une fraude électronique là-bas. Je pense pas qu'en France ça puisse arriver, mais par contre qu'il y ait des boules puantes qui sortent, oui. Mais quelle va être aussi l'importance de ces boules puantes dans une campagne qui, moi, aujourd'hui, quand même, depuis le début de la guerre, j'ai l'impression qu'elle démarre pas tellement. Personnellement, je m'y intéresse plus du tout parce que je suis tellement bouleversé au quotidien par cette guerre, parce que je suis très impacté quand même malgré tout, et je me pose vraiment des questions pour l'année prochaine, parce que mon activité est fortement impactée. Donc, et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont un petit peu déconnectés de cette élection-là. On en parlera peut-être un petit peu plus loin tout à l'heure, mais la campagne, pour moi, elle patine. Personnellement, j'aurais aimé que la présidentielle soit repoussée.
Michel, tu penses que il pourrait y avoir interférence dans le fait que, effectivement, à la place de Poutine, il préférerait avoir en face de lui un Zemmour, une Marine Le Pen, plutôt que éventuellement un Macron-bis.
Je ne pense pas ça du tout. Je pense que dans la situation actuelle, ça profite plutôt à Macron, la situation. Il s'est implanté en chef de guerre, il démontre.
Oui, d'où Poutine, l'intérêt à ce que Macron dégage.
Et en fait, l'effet guerre a surtout décrédibilisé les extrêmes qui étaient proches du
pouvoir russe.
Du pouvoir russe. Et a redonné de l'élan à Macron. On voit bien qu'il monte, il était à 25, il a 31 aujourd'hui. Alors, les sondages, il faut les manier avec précaution. Mais aujourd'hui, ça lui donne plutôt une stabilité. Alors, par-dessus ça, on peut en parler, c'est toutes les annonces qui sont faites en ce moment. Pendant 5 ans, on n'a rien appris. Et puis là, du jour au lendemain, je crois que c'est toi qui as employé l'expression, c'est repris dans le Dauphiné Libéré ce matin, c'est on rase gratis.
Eh oui, bien sûr. À chaque élection, ça se passe comme ça. On le sait bien.
Là, tu dis à chaque élection, mais là, c'est encore plus que d'habitude. C'est très voyant, quoi. Je sais pas, moi, c'est impressionnant. Hier, en déconnant, j'étais dans une réunion de la mutualité, j'ai dit que c'est peut-être le moment d'écrire à Macron pour qu'il supprime les taxes sur les complémentaires santé, quoi. Parce que c'est maintenant qu'il faut le faire, quoi, parce qu'apparemment, il répond oui à tout, quoi.
De toute façon, à chaque fois, c'est pareil. Les candidats arrivent, ils te promettent monts et merveilles, et on sait pertinemment qu'il y a 50% de ce qu'ils ont annoncé qui n'est pas mis en action, quoi. C'est un grand classique. Là, on se retrouve avec le dégel du point d'indice des fonctionnaires.
Ah ouais, voilà. C'est impressionnant ça.
Voilà. Alors, moi j'ai trouvé ça formidable. D'où l'expression, on commence.
C'est très bien qu'il va y avoir de l'inflation, donc autant dégeler tout de suite. Hein.
Alors, c'est très rigolo parce que c'est Amélie de Montchalin, qui est donc la ministre de la fonction publique. Voilà ce qu'elle a annoncé, donc c'était cette semaine.
Une décision comme celle-là, nous la prenons parce que nous pensons que économiquement, pas pour des raisons électoralistes, c'est une mesure très importante pour les agents publics.
Pas pour une raison électoraliste. Attends, électoraliste. Ça, c'était cette semaine. On fait un saut dans le temps. Juillet l'année dernière. C'était il n'y a pas longtemps. Écoutez.
Le point d'indice n'augmentera pas.
Il n'augmentera pas depuis des quinquennats. En général, en fin de quinquennat, augmenter le point d'indice, c'est une mesure électoraliste.
Ah oui, c'est au contraire. Voilà. Peut-être que le dégel, on n'en a pas parlé, mais le dégel, il vient peut-être tout simplement du réchauffement climatique.
C'est peut-être ça. C'est peut-être ça.
On le disait tout à l'heure, avant d'être à l'antenne, franchement, c'est n'importe quoi, cette campagne électorale. moi, je vous le dis, hein, c'est vrai que la guerre nous absorbe tellement ces images que l'on voit tous les soirs. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, ça me retourne. Ça me retourne parce que j'imagine.
Je ne comprends pas.
J'imagine que. Et c'est con à dire, hein, mais que ça pourrait nous arriver à nous du jour au lendemain. Je regardais l'Ukraine une semaine avant la guerre, les gens en train de se balader, à la terrasse d'un café en train de boire. Aujourd'hui, ils se prennent des bombes sur la tronche. Ouais. Pourquoi ? On ne sait pas. Enfin, je vais dire, voilà. Pour quelle raison ? Parce qu'ils ont envie d'être libres, parce qu'ils ont envie de démocratie, et que l'autre, il dit non, mais surtout pas, parce que non, après, avec le temps, c'est moi qui suis agressé. Mais on est en vie dans un pays monde de fous.
Je te coupe, mais ils n'ont pas envie de démocratie, parce qu'ils étaient très contents de leur gouvernement. C'est qu'ils sont tout simplement envahis.
Ils
revendiquaient pas plus de liberté ou autre. Ils revendiquaient presque d'adhérer à l'Europe. C'est peut-être ce qui tout le mal qu'ils ont eu.
Mais il y en a de plus en plus qui ont envie d'adhérer à l'Europe aujourd'hui. Il y en a de plus en plus.
Bien sûr, moi, sur cette guerre, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que c'est vrai que moi, je suis très impacté par cette guerre et je me sens très proche de l'Ukraine. Mais par contre, je me rends compte aussi que je suis mal à l'aise dans les autres conflits qu'on a, par rapport aux autres conflits qu'on a connus, notamment l'Afghanistan ou la Syrie, et on s'est senti moins
intéressé. C'est Coluche qui disait ça. Dans un sketch, il disait...
Il y a la guerre au Vietnam, il y a la guerre au Cambodge, il y a la guerre en Iran, il y a la guerre en Afrique. Ça se rapproche, hein. Et moi, je m'en fous. Je préférais la guerre au Vietnam à la guerre en Iran parce qu'elle était plus loin. Je trouvais ça plus sympathique.